Rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette première matinée d'une semaine, vous l'avez compris, consacrée aux associations sur Aligre FM dans le cadre de la célébration de la loi 1901. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux représentantes de l'association L'Amicale d'Uni. Vous êtes en situation de prostitution, vous avez des droits. La loi du 13 avril 2016 reconnaît la prostitution comme une violence. Une personne prostituée n'est pas coupable, mais bien victime. Elle a le droit de ne plus supporter des actes sexuels non consentis et non désirés. Elle a le droit d'être accompagnée pour sortir de la prostitution. Quelle que soit votre situation, vous pouvez prendre contact avec l'Amicale d'Uni. Tels sont les mots qui vous accueillent lorsque vous vous connectez sur le site de cette association que j'ai choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui dans le cadre donc de la semaine qu'Aligre FM a choisi de consacrer au secteur associatif souvent en difficulté, et ce pour célébrer les 125 ans de la loi 1901. Et ça tombe bien puisqu'avec cette émission nous célébrons deux anniversaires. L'Amicale d'Uni fête cette année ses 80 ans, elle est née en 1946, au lendemain de la loi sur la fermeture des quelques 1500 maisons closes du territoire français, loi dite Marthe Richard, qui n'était pas seulement responsable politique, mais elle-même ancienne prostituée. On se retrouve tout de suite après ça. Et avec moi pour parler ce matin de l'Amicale d'Uni et surtout de l'exploitation sexuelle des mineurs, Delphine Jarraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2020 déléguée nationale de cette association, et avec vous nous allons commencer l'émission par un rapide retour en arrière sur l'histoire de l'association avant d'arriver à la question qui nous occupe aujourd'hui, celle, je l'ai dit, de l'exploitation sexuelle des mineurs. Sophie Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice spécialisée et depuis 3 ans vous avez rejoint cette association. Vous êtes en charge justement des mineurs en situation d'exploitation sexuelle ou en risque de l'être, mineurs que vous co-accompagnez tout en faisant de la prévention et de la formation auprès d'animateurs et d'éducateurs dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. On aura l'occasion d'en parler largement tout au long de cette émission. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Delphine Jarraud, je commence en me tournant par vous. L'Amicale d'Uni, 1946, une association qui commence à avoir ses titres de noblesse et qui naît, je le rappelais, dans un contexte particulier, celui de la fermeture des maisons closes. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette association ?
Merci pour votre invitation et merci de mettre à l'honneur l'Amicale d'Uni, puisque nous sommes une association effectivement de 80 ans, une vieille dame mais pas encore en EHPAD, et très dynamique puisque malheureusement l'exploitation sexuelle ne fait que se poursuivre, même si nous ne sommes pas dans les chiffres de 1946. Le phénomène s'est réduit, mais reste extrêmement important. 1946, il faut se replacer dans une mouvance très animée dans les créations d'associations autour des jeunesses ouvrières catholiques, la JOC. Et c'est un prêtre qui a créé l'association, avec à ses côtés une personne qui avait été en situation de prostitution et qui avait des problématiques addictives liées à l'alcool. Et ces deux personnes ont été extrêmement actives et ont créé d'abord ce qui s'appelait l'ENI, qui n'avait pas de forme juridique associative, et ensuite l'Amicale d'Uni en 1946. D'emblée, l'idée était le constat d'un système d'exploitation et qu'il fallait aider les personnes à s'en émanciper. Dans les années 70, l'Amicale d'Uni a fait le choix de la professionnalisation, ce qui était un choix extrêmement important politiquement, parce que le fondement est des personnes qualifiées, des personnes compétentes avec des diplômes pour accompagner les personnes en situation de prostitution et la laïcisation. De fondement qui, dans les années 70, a créé une scission avec le mouvement d'Uni. On nous confond généralement, mais on est né effectivement d'une même PMA, mais ensuite on a tracé chacune notre voie. Et le mouvement d'Uni s'est laïcisé dans les années 2000, lorsque nous l'avons fait dans les années 70. Eux ont fait le choix plutôt d'une association mouvement social avec massivement des bénévoles, beaucoup moins de salariés. Aujourd'hui, on est à 280-290 salariés, tous professionnels, avec des formations initiales et des formations continues. Et nous œuvrons sur plusieurs actions. On assure des diagnostics territoriaux à la demande des pouvoirs publics, c'est-à-dire que notamment les délégations aux droits des femmes et aussi les agences régionales de santé ont besoin de connaître, de faire une photo du système prostitutionnel sur un département par exemple ou une région, comme on est en train de le finaliser à l'île de la Réunion ou en cours aussi dans la Creuse. Donc c'est très très diversifié géographiquement. Ce diagnostic permet de sortir des propositions qui vont alimenter la politique publique, et ça c'est extrêmement important. Ensuite, on assure des actions de prévention massivement auprès des jeunes en milieu scolaire ou des jeunes plus vulnérables qui relèvent de la protection de l'enfance ou de la police judiciaire de la jeunesse ou d'autres lieux. Et enfin, nous assurons tout ce qui est sensibilisation et formation des professionnels. Nous avons un organisme de formation Calliope, certifié Calliope pour sa qualité. Et cette sensibilisation, cette formation permet d'acquérir des compétences et comprendre le système prostitutionnel et repérer les personnes vulnérables ou déjà en situation de prostitution pour mieux les accompagner ou les orienter autant que nécessaire. Enfin, on assure de l'étayage des pratiques professionnelles auprès des personnes qui travaillent auprès de victimes, c'est-à-dire qu'on les accompagne notamment concernant les mineurs sur leur propre accompagnement des victimes. Et enfin, on pratique ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire aller vers les personnes en situation de prostitution, où elles sont, où elles en sont. Que ce soit dans l'espace public, bon, nous sommes à Paris, donc inutile de savoir que n'importe quel Parisien, Parisienne connaît les lieux de prostitution à Paris, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Strasbourg, Saint-Denis ou Belleville notamment. Donc nous y allons par voie pédestre, par voiture, en camion, et nous apportons déjà, maintient le lien, crée le lien, le maintient, des messages de prévention, des messages de réduction des risques et des dommages, et si besoin, derrière, la possibilité de rencontrer les équipes pour un accueil et un accompagnement. J'en arrive donc à tout ce qui est mission mineure, hein, qui font plutôt la suite des actions de prévention, où il s'agit de co-accompagner auprès de la protection de l'enfance les mineurs en situation d'exploitation sexuelle, qui sont de la responsabilité de la protection de l'enfance. Nous sommes à côté comme acteurs spécialisés. Enfin, on a surtout l'accueil des personnes par différents lieux. Mais par exemple, en Seine-Saint-Denis, ça va être des accueils spécialisés pour femmes en situation de très très grande précarité, indépendamment des risques prostitution. Mais on sait que la précarité est un facteur de vulnérabilité. Et les femmes, plus elles sont vulnérables, plus elles subissent des violences en général. Et enfin, on assure, oui, je ne l'ai pas dit, mais l'aller vers sur l'espace numérique, très important, puisqu'on a à peu près 45-55 000 annonces actives en ligne sur le site principal, qui est un site de proxénétisme, qui pourtant ne cesse pas son activité, ni par la justice ni autre. Et donc 45 à 55 000 annonces actives par jour, et à peu près 431 000 personnes qui se connectent tous les jours. Donc ça fait beaucoup de volume. Et sur cet aller vers numérique, nous adressons des messages personnalisés aux personnes en s'adressant directement par leur prénom, la façon dont elles se nomment, escorte ou autre, et dans la langue supposée en capacité d'être comprise, c'est-à-dire d'abord le français, mais une autre langue, ça peut être l'espagnol, le portugais ou autre. Je reviens à l'accueil et l'accompagnement global, qui est un accompagnement des adultes, vraiment en situation de prostitution, qui peut être socio-éducatif, juridique, qui peut être aussi sur la question de la parentalité. L'idée, c'est la réduction des risques et des dommages, l'accompagnement, la conscientisation de cette question des violences du système prostitutionnel et accompagner la personne à trouver les ressources pour s'émanciper de ces violences. Et si elle le souhaite, si elle le peut, sortir du système prostitutionnel. Et parmi les outils dont on dispose, on a un peu plus de 500 places d'hébergement et de logement accompagnés. L'Amicale du Nice est aussi un maillage territorial, puisque nous sommes en Île-de-France, en Bretagne. Nous sommes aussi à Lyon, à Grenoble, en Savoie. Nous sommes aussi à Marseille, à Toulouse, à Montpellier. Donc une association qui essaie d'œuvrer sur un continuum d'action pour plus d'efficacité, comme vous l'avez bien compris, de la prévention jusqu'à l'accompagnement. Et pour cela, on assure un plaidoyer, que ce soit auprès des pouvoirs publics, ministères, auprès des assemblées, hein, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, que ce soit auprès de la MIPROF, qui est la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi auprès de la haute commissaire, par exemple, à l'enfance, Sarah El Haïry. Voilà, donc nous avons différents interlocuteurs publics auprès desquels on fait tout pour faire appliquer la loi et améliorer la loi.
Donc un travail en étroite collaboration avec les services de l'État. Quel est le modèle économique, rapidement, Delphine Jarreau, quelles sont les sources de financement de cette association?
Alors, nos sources de financement, c'est à peu près 80% l'État, 20% le reste, c'est-à-dire les collectivités territoriales. On a des dotations globales pour nos centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Un peu moins de 50% de nos ressources. Et nous allons subir une réforme de la tarification des CHRS qui peut déjà poser quelques inquiétudes.
C'est-à-dire
ben, c'est-à-dire qu'on va vers des... Alors, soi-disant enveloppe globale, nationale, fixe, stable, on va dire. Mais beaucoup de baisses sont déjà annoncées. Et on craint la non-prise en compte de publics très, très spécifiques, avec un besoin renforcé d'accompagnement, comme les personnes victimes du système prostitutionnel. Voilà, donc CHRS un petit 50% et ensuite le reste en subvention État et collectivités territoriales, sachant que on n'est pas dans la meilleure des perspectives financières, compte tenu du budget de l'État qui s'oriente vers un renforcement de la politique de défense nationale et je l'espère aussi sur les politiques environnementales. En tout cas, on n'est pas dans les priorités, même si notre Premier ministre vient enfin d'annoncer l'inscription à l'agenda parlementaire à l'automne d'une loi intégrale qu'on défend hein, depuis le début, une loi intégrale sur les violences contre les femmes et contre les enfants.
Il y a aussi la possibilité de faire des dons.
Tout à fait. Il y a possibilité de faire des dons.
On peut peut-être en parler, c'est le moment
avec jamais, des réductions de fiscales, un appel. Donc une partie donc financée par l'État, faut quand même le dire aussi. Donc n'hésitez pas à faire un don. C'est directement sur notre site amicaleduni.org et vous pouvez aussi vous abonner à une lettre d'information tous les trimestres à chaque saison et qui vous rappelle la possibilité de faire un don tous les trimestres.
Merci Delphine Jarreau pour cette présentation très complète.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Sophie Guillaume, je me tourne vers vous. Donc vous avez rejoint l'Amicale du Nid il y a 3 ans. Vous êtes éducatrice spécialisée. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette association où vous êtes en charge des mineurs en situation d'exploitation sexuelle ou en risque de l'être ?
Bonjour. Alors effectivement, j'ai rejoint cette association notamment au moment de la création de la mission mineure dans le 95 parce que pour ma part, donc j'interviens sur le département du Val-d'Oise. Avec, je pense, un vrai souhait et désir de pouvoir me spécialiser et avoir un œil un peu plus pointu sur une problématique. Voilà, parce que jusqu'à présent, je travaillais avec des enfants en situation de maltraitance et de délaissement, mais avec tous les sujets qui pouvaient recouvrir les placements des juges des enfants. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un focus à un moment précis et pouvoir plus me spécialiser dans l'accompagnement, le regard et l'analyse de ce système et de ce fléau, parce que j'avoue que c'est extrêmement difficile à supporter et à entendre tout ce que l'on constate. Voilà.
Alors justement, quel est votre constat lorsque vous arrivez à ce poste et quels obstacles, quelles contraintes repérez-vous dans l'accompagnement de ces jeunes en situation d'exploitation sexuelle, jeunes sur lesquels on essaiera de mettre non pas un visage et un nom, mais quand même un récit de vie et d'essayer d'en cerner pour quelques-uns le profil.
Alors, le premier constat que j'ai envie de faire là, c'est l'importance du coup de la spécialisation de l'association, parce que lorsqu'on arrive, on a vraiment une formation très nourrie, très pointue et du temps pour pouvoir s'approprier les concepts et pour pouvoir connaître beaucoup mieux le terrain et aller voir derrière ce phénomène ce qui s'y passe vraiment, parce qu'en fait on n'est pas suffisamment informé, je pense, et il y a besoin à un moment de se pencher pour avoir plus de capacité de réflexion et de pouvoir plus mieux prendre en charge, pardon. Et les difficultés, je les déclinerai assez rapidement, mais je trouve notre particularité à la mission mineure du Val d'Oise, c'est que nous travaillons en lien essentiellement avec l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que ce sont les éducateurs des lieux d'accueil des enfants, ainsi que les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, qui sont amenés à nous solliciter et nous demander, dans un premier temps, de pouvoir échanger avec eux sur des situations qui leur posent souci et pour lesquelles ils s'inquiètent. Dans un deuxième temps, éventuellement, si le jeune l'accepte et si ça s'avère possible, de rencontrer les jeunes. Et je crois que le premier maillage, et d'où l'importance de pouvoir qu'ils puissent nous faire appel à cette association spécialisée, c'est de pouvoir parler le même langage et de pouvoir avoir la même lecture de ce phénomène. Parce qu'on se confronte encore beaucoup à des collègues qui malheureusement manquent d'étayage et manquent de connaissances sur ce que revêt ce phénomène et sur les raisons pour lesquelles les jeunes à un moment peuvent être aspirés dans ces relations d'emprise et vivre de telles violences. Voilà. Donc on fait d'abord un boulot préalable de sensibilisation auprès des collègues, de différentes manières. Et lorsque je peux rencontrer les jeunes avec mes collègues, ce qui est très très récurrent, c'est que les jeunes, les plus jeunes qu'on ait pu rencontrer avaient 13 ans, 14 ans, en tout cas, c'est pas la majorité, mais ça peut arriver. C'est la difficulté de pouvoir comprendre les inquiétudes des adultes au regard de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles pensent être à un moment donné une liberté et ce qu'elles ne perçoivent pas de danger lorsqu'elles font des fugues, parce que la majorité des recrutements c'est quand même lors de fugues ou alors sur les réseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, d'arriver à aider ces jeunes à comprendre qu'elles sont à un moment victimes d'un système. Et la manière dont on est, enfin en tout cas pour ma part et les collègues avec lesquels je travaille, la manière dont on intervient, c'est tout d'abord de prendre un temps avec elles ou avec elles, pour revenir sur les raisons de leur placement, les violences dont ils ont été l'objet, ils ou elles, et d'aborder avec eux que toutes ces violences, elles ont forcément des conséquences, et que ces conséquences, malheureusement, l'une d'entre elles en tout cas, ça peut être d'être recruté et d'être utilisé à nouveau sexuellement dans un réseau de prostitution. Et c'est vraiment un travail qui permet de revenir sur la personne et de prendre un temps pour aussi balayer est-ce que les victimes, les violences dont ils ont été victimes plus jeunes, que ce soit intrafamilial, c'est majoritairement ainsi, ont-elles été suivies de quelque chose? Est-ce qu'il y a encore des procédures pour lesquelles il faudrait éclaircir un peu voilà, où en est la police, où en est l'enquête, etc. Donc ça, c'est vraiment... ça revient très souvent, cette question. Oui, mais j'avais dénoncé, ça, j'ai pas été entendue. Ou, voilà, c'est...
Alors, ouais. Donc, on va entrer après oui, hein, dans le détail des situations que vous pouvez oui. Rencontrer à ce poste, Sophie Guillaume. Juste une question sur une plainte qui a été déposée contre la France le 14 avril 2025 auprès du Comité des droits de l'enfant à l'ONU pour, je cite, « violations graves et récurrentes des droits de l'enfant mineur confiés à l'aide sociale à l'enfance ». Delphine Jarraud, qu'est-ce que vous inspire cette plainte ?
Alors, Amicale Duny, on fait le choix de ne pas faire du bashing anti-protection d'enfance. Oui. Qu'on soit bien clair, la protection de l'enfance travaille dans des conditions qui ne sont pas à la hauteur des moyens. Et nos collègues de la protection de l'enfance travaillent en sous-effectif, avec des professionnels pas forcément qualifiés et des professionnels pas forcément formés sur la question de l'exploitation sexuelle ou en tout cas de toutes les violences sexuelles et de leurs conséquences, notamment en matière de psychotrauma, comme le disait ma collègue. Et voilà, donc on se refuse à ce bashing. En revanche, on estime qu'il y a une chaîne de responsabilité, comme hélas l'affaire récente concernant cette jeune fille violée et assassinée. On est sur
Liana.
Une chaîne...
On parle de Liana ?
Oui, je préférais parler de son bourreau que d'elle. Mais en tout cas, c'est une chaîne de responsabilité qui va de la prévention, de la prévention auprès des jeunes, le changement de paradigme, de vision culturelle, du rapport entre les femmes et les hommes, de moyens donnés à la protection des enfants qui sont l'avenir de notre société. Et ensuite, de moyens de la police, de la justice, de moyens de soutien à la fonction parentale, puisque beaucoup de parents sont complètement démunis face à des jeunes qui ont des comportements, des attitudes, des pratiques complètement différentes de la génération de leurs parents et des grands-parents. Donc on va dans une accélération des changements et on se retrouve un peu tous démunis en tant qu'adultes. Ni la protection de l'enfant seul, ni la justice seule, ni l'Amicale Duny seule ne pourra agir. C'est vraiment ensemble, avec les systèmes de santé aussi, de protection par la santé. Donc c'est vraiment, cette plainte, oui, sans doute, sans aucun doute fondée, mais une responsabilité qui est systémique.
Et collective.
Voilà, et collectif, parce que c'est trop facile de pointer, comme d'ailleurs c'est fait contre la gendarmerie et la justice actuellement avec cette affaire. C'est trop facile. On a une responsabilité absolument collective. Mais du citoyen aux parents, aux professionnels, du champ social, de la protection de l'enfance, de la santé, de l'éducation nationale. Et j'insiste sur l'importance de la mise en œuvre des programmes EVARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Parce qu'il faut bien comprendre que cette idée de cette question de l'exploitation sexuelle, elle s'inscrit dans un système qui est 99% les clients sont des hommes, des acheteurs d'actes sexuels, qui considèrent que ils ont des besoins sexuels irrépressibles et qu'il faut que socialement une réponse leur soit donnée. Ce n'est pas du tout en alternative au viol, comme certains le pensent. Ce n'est pas du tout le même profil. Donc, des hommes qui considèrent qu'ils ont des besoins irrépressibles sexuels auxquels on doit apporter une réponse sexuelle organisée. Ensuite, nous avons des exploiteurs qui, bien sûr, en tirent profit et des victimes qui, compte tenu de leur vulnérabilité, par des facteurs déclenchants, vont être captés et exploités. Qu'elles soient mineures, qu'elles soient adultes. Ce système, il est vraiment à l'intersection de domination masculine. J'insiste sur l'aspect genré. Hein, la majorité des victimes sont des femmes, mais il y a aussi des hommes et des personnes transidentitaires. L'extrême majorité, pour ne pas dire la totalité, des acheteurs sont des hommes. Et plus diversifié sur la question des exploiteurs. Donc, une, domination masculine, une domination économique, j'ai l'argent, j'achète ce que je veux, y compris un être humain en CDD. Et ensuite, une domination raciste, puisqu'il suffit de lire les commentaires des acheteurs sur les sites dédiés Internet pour se rendre compte à quel point ils qualifient, ils naturalisent les êtres humains par des catégories de noir, de jaune, de vert, de bleu, avec des qualités supposées. Qualifiant aussi les jeunes en se repassant le fait que la jeune est bien plus jeune que sur la photo. Et par là... l'apologie de la pédocriminalité. L'autre système auquel nous avons affaire, c'est un système de pédocriminalité. Donc là, inutile de le rappeler, mais quand même, 60 000 enfants par an subissent des violences sexuelles. C'est quand même un gamin toutes les 4 minutes. 10 millions d'adultes ont subi des violences étant enfants. Et il faut quand même savoir une chose, c'est que du fait des psychotraumas liés à ces violences sexuelles enfants, une fille devenue adulte aura 4 fois et demi plus de risque d'être elle-même victime de violences sexuelles adultes. Et les garçons devenus adultes auront 3 fois et demi de plus de risque d'être auteurs de violences sexuelles adultes. Donc, on voit bien à quel point ce système est genré, mais à quel point aussi, donc ça c'est le système, mais à quel point à titre individuel, le choix reste toujours possible d'être auteur, de passer à l'acte ou de ne pas. Et c'est vrai que le recours aux soins est très important, mais c'est plus globalement une approche de la société et du rapport femme-homme, et du rapport des adultes aux enfants. Par exemple, aujourd'hui, dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes sur le sexisme, le rapport de 2026, sont soulignés deux types de sexisme. Le sexisme paternaliste, qui considère les femmes comme des créatures à protéger. On n'a pas besoin de votre protection. Et d'autres, 23% d'hommes, ce qui en fait beaucoup quand même, qui considèrent que l'infériorité des femmes justifie les violences qu'on leur fait. Et ce sexisme hostile, il faut en faire le lien avec le masculinisme. C'est ces espèces d'êtres humains de sexe masculin qui estiment qu'il y a une haine structurelle contre les femmes, par frustration, mais surtout par domination, puisque justifiant des violences. Et ce sont ces mêmes êtres humains. Plus un homme a un rapport au sexisme hostile, plus il consomme de sites de type de réseaux sociaux de type X pour pas les nommer et TikTok, plus il consomme de pornographie, plus il en consomme de pornographie payante, plus il a recours à la prostitution. Donc on voit bien le continuum qu'il existe dans les violences faites aux femmes et dans la prostitution qui est presque, on va dire, la cerise sur le gâteau des violences faites aux femmes, aux enfants, à d'autres hommes, à des personnes transidentitaires. Et 14% aujourd'hui des hommes, on attend les résultats de l'étude de l'INSERM sur la sexualité des Français, mais en tout cas 14% des hommes dans l'étude du HCE disent avoir eu recours à la prostitution, ce qui en fait beaucoup quand même autour de nous.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Quand la lune apparaît, tu peux la croiser en ville. Elle a 2 prénoms, un pour la vie, l'autre pour la nuit. Une croix sur ses études, le temps lui a mené la vie dure. Entre le café et la pharmacie, elle a ses habitudes. L'habitude d'être dans le froid, les jambes à l'air. Toute droite dans le noir, on la confondrait avec un lampadaire. Un combat contre la montre, elle danse avec son ombre, bien trop jeune pour faire le plus vieux métier du monde. Son parfum mélangé à l'odeur d'essence qui l'entoure, elle se donne le droit de croire qu'elle pourra partir un jour. Elle a laissé ses rêves s'abîmer à quelques rues. Certaines le font par choix, elle ne l'a jamais eu. En rentrant, elle ferme les yeux devant le miroir de l'ascenseur. La nuit, tous les chats sont gris et tous ses clients sont seuls. Ils emportent un peu d'elle quand ils referment la porte et des traces apparaissent quand les caresses deviennent trop fortes. Elle est intelligente et drôle, mais pour être honnête, les hommes qui viennent la voir ne sont pas là pour la connaître. Sous la grande ours, elle fait tout pour leur faire envie. Elle doute et quand son maquillage coule, elle dit que c'est la pluie. Bien sûr, elle voudrait être ailleurs, partir d'ici, mais elle est prise en otage par le café et la pharmacie. Cernée, vu que chaque soir est déjà demain, elle a des tonnes de regrets. coincé dans son petit sac à main. Les saisons passent, on s'habitue aux angoisses. Elle se dit que ça pourrait être pire en regardant le SDF d'en face. Les destins se ressemblent dans le périmètre. Elle fait les 100 pas, en restant là, elle a fait des milliers de kilomètres. Souvent, son prince charmant s'évapore comme un mirage. Ils se souviennent pas de son prénom, elle veut oublier leur visage. Des sacrifices pour un meilleur avenir. Si la lune pouvait parler, elle en aurait des choses à dire. Elle a un fils, son petit bout d'âme, son moment de calme, l'étoile qui la guide dans la nuit noire. Elle rejoint aux aurores, après l'horreur, elle se conforte dans son odeur, son cœur et son corps. Il ne sait pas encore, pour son bout de trottoir, il lui donne l'amour qu'on ne lui donne pas le soir. Elle le regarde dormir, d'un coup elle désespère. Comment lui expliquer où est passé son père? Un jour elle partira, elle l'emmènera au loin. Elle fermera une valise, elle a hâte, un beau matin. Elle s'échappera des griffes du périph' de Paris. Elle aura une maison, un chien, un château, un mari. Elle s'est promis que tout ça ne durerait pas. Une mauvaise passe qui s'en ira, oui. Elle croit au miracle, elle en vient presque à oublier qu'elle doit retourner cette nuit entre le café et la pharmacie. Sa mère pense qu'elle est engagée comme danseuse dans un cabaret. Mais sa scène fait 2 mètres carrés. C'était la plus belle quand elle était au pays. Elle lui donne des nouvelles, des mensonges bien écrits. Elle fait bonne figure, mais au moment de raccrocher, ça la brûle de lui dire de venir la chercher. Mais elle sait qu'ils sont là, les loups qui la surveillent. Elle voudrait pas qu'ils s'en prennent à sa seule merveille. Nous, on sortait de boîte dans une voiture, on roulait vite. De la fumée, de la musique, rien qu'entre amis, on voulait rire. On n'avait pas envie de rentrer, et certains avaient trop bu. On savait pas trop où aller, quand soudain on l'a vu. D'un coup, on a ralenti, lorsqu'on est passé au niveau de la pharmacie, juste à côté du café. Mon Dieu, ce qu'on peut être con quand on est entre potes. On a baissé la vitre, on a crié. Salope !
2026, 125 ans de la loi 1901. Du 29 juin au 5 juillet, Aligre FM célèbre et défend la liberté associative. Soyez à l'écoute sur 93.1, aligrefm.org et en DAB+.
Et on se retrouve en compagnie de Delphine Jarraud, déléguée nationale de l'Amicale du Nil, qui accompagne les victimes du système prostitutionnel, mais aussi de violences intrafamiliales, et Sophie Guillaume, éducatrice spécialisée en charge des mineurs en situation d'exploitation sexuelle. Sophie Guillaume, on entendait avant la pause musicale, c'était Salope de Big Flo et Oli, on entendait Delphine Jarraud au sujet de tous les types de domination masculine que recouvre ce système d'exploitation sexuelle de femmes adultes et d'enfants mineurs. Il faut rappeler que l'Amicale du Nil accompagne ces mineurs dans une démarche auprès de la justice et partie civile dans cet accompagnement. Et lorsque nous avons préparer cette émission, vous avez évoqué ceci en parlant du déni et de la toute-puissance que vous avez constaté chez les hommes qui ont recours à la prostitution enfantine.
Oui, effectivement, un des volets qui est très important de l'accompagnement de ces mineurs, c'est la possibilité pour l'association de se constituer partie civile à partir du moment où nous suivons une jeune fille ou un jeune garçon. Là, en l'occurrence, nous avons pu assister à 3 procès différents pour la même jeune fille. L'un des procès étant pour les proxénètes qu'il avait séquestrés, et les deux autres procès concernaient les clients qui donc ont pu être identifiés. Il y avait 8 clients dont les preuves matérielles ont pu être réunies et ont permis à la police d'établir des dossiers solides. Il y avait à la fois des preuves ADN, des preuves au niveau des téléphones téléphoniques qui bornaient sur le lieu où la jeune se trouvait, et voire même jusqu'à des enregistrements vidéo. Donc tout ceci a permis qu'un procès ait lieu, et il est important de souligner que malgré le jeune âge de cette petite, puisqu'elle n'avait que 15 ans, on aurait pu imaginer que les choses se passent dans un autre contexte. Or, ils ont été pour la majorité en cours d'assises, mais en cours criminelle. Non, comment, Madame Jarraud? L'autre cours Si c'est pas en cours d'assises. En correctionnel, pardon.
En correctionnel.
J'ai pas l'habitude de la radio, donc je suis un peu intimidée.
Non, mais
Ils ont été jugés en cours correctionnel. Et du coup, les peines étaient moins importantes. Cependant, moi, ce que j'ai trouvé très difficile et douloureux pour cette jeune fille, qui a été, elle, très courageuse et qui est venue assister à toutes les audiences, c'est que systématiquement, les hommes qui se sont présentés à la barre étaient dans un déni massif et total de la violence qu'ils avaient pu faire subir à cette jeune fille. Elle était séquestrée, elle a demandé de l'aide à 3 reprises à des clients différents qui n'ont à aucune mesure et à aucun moment porté cette parole à l'extérieur en sortant. Et à chaque fois revient la même phrase, mais on n'a pas vu qu'elle était mineure parce que la pénombre, parce que ci, parce que ça. Et j'ai envie de dire, même pris la main dans le sac, ils sont encore dans le déni du fait que à un moment, c'était une petite et qu'elle n'avait pas du tout et aucune raison d'assumer ce qui se passait, mais qu'elle était amplement victime. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant et frappant. Aucun d'entre eux n'a adressé des excuses à la fin. Finalement, c'est les proxénètes qui étaient des jeunes filles et qui se sont plus remises en cause parce qu'elles avaient été victimes, elles aussi, de la même chose avant, qui, elles, ont eu plus d'humanité, j'ai envie de le dire comme ça, pour aller ensuite s'excuser auprès de la jeune fille qui a été victime. Et enfin, pour le dernier client qui a été jugé, lui, en cour d'assises, il s'avère que les preuves étaient encore plus conséquentes le concernant. Il a été poursuivi pour viol. Et après une longue semaine éprouvante, très éprouvante pour tout le monde, mais bien évidemment pour la victime qui, encore une fois, a eu le courage de venir, la qualification qui a été retenue par la cour était agression sexuelle et non pas viol. Donc la condamnation était moins importante, alors même que l'homme a pu reconnaître avoir violé cette gamine et que beaucoup de preuves étaient recueillies, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un combat qu'on est loin de gagner. Et je voudrais insister aussi sur l'importance pour moi que des avocats, qui connaissent bien le travail de l'Amicale du Nid, soient présents, parce que dans ces moments très solennels, il est important qu'une voix telle que celle des avocats porte pour à nouveau, devant la cour, défendre et faire entendre que ces enfants sont victimes, sont utilisés, et qu'en aucun cas on peut parler d'un contrat qui est respecté, parce que c'est un peu le vocabulaire des avocats. Oui, mais il y avait un contrat, donc elle a fait ce que le contrat disait. Voilà, donc il faut vraiment insister sur l'importance dans ces moments-là de la plaidoirie des avocats.
Delphine Jarreau, en quelques mots brefs, s'il vous plaît, le témoignage de Sophie Guillaume sur le déroulement de ces procès, que nous disent-ils peut-être des limites de la loi 2016 sur la pénalisation des clients, et particulièrement dans le cadre de l'exploitation sexuelle des enfants?
Il n'y a pas de limite à cette loi, elle est parfaite. On pourrait peut-être criminaliser... l'achat d'actes sexuels globalement pour les moins de 18 ans et pas que les moins de 15 ans serait une évolution possible. Mais aujourd'hui...
Là, vous parlez du débat autour de la majorité sexuelle ?
Non. La question d'aujourd'hui, l'achat d'un acte sexuel auprès d'une personne de moins de 15 ans, c'est un crime, c'est un viol. 20 ans de prison. Quand il s'agit de 15, 18, c'est encore une autre peine. Et on va dire pour les adultes, c'est 1 500 € d'amende, 3 750 en cas de récidive. Lorsque les personnes en situation de prostitution se sont vues en 2003 par un ministre devenu président de la République et qui est passé par la case prison d'ailleurs entre-temps, quand ce ministre de l'Intérieur a instauré un renforcement de la pénalisation des victimes du système prostitutionnel parce que des ordres à l'ordre public, il leur a infligé une contravention de 3 750 € d'amende et passible de 2 mois de prison. Lorsqu'il s'agit de pénaliser les clients, ce n'est que 1 500 € d'amende. C'est moins de 1 200 hommes par an qui ont une contravention. Donc la probabilité de se faire pincer quand il y a une si faible volonté de politique pénale est extrêmement faible. Et c'est ça qu'on regrette. Parce que tant qu'il n'y a pas le signal de l'interdit social marqué par la justice en l'espèce des contraventions, tant qu'il n'y a pas cet interdit social qui est marquant, qui est visible, qui est rendu public par des campagnes nationales, c'est l'impunité qui continue. Et aujourd'hui, ce qu'on regrette, c'est que cette impunité est renforcée par l'absence de volonté de politique pénale et de si peu d'hommes poursuivis. Ensuite, les réseaux, on est à moins de 60 réseaux démantelés en 2025. Donc ça reste bien trop faible quand on voit la volonté de politique pénale, par exemple contre le trafic de stupéfiants. Je ne fais pas de parallèle, hein, et c'est très bien qu'on lutte aussi contre les trafics de stupéfiants, mais là, il s'agit de mettre aussi les moyens sur ce trafic. Il s'agit quand même de trafic d'êtres humains. Et qui vont jusqu'au décès. Et ensuite, se dire qu'à une époque où on nous dit qu'on n'a pas assez de moyens, imaginez ces 430 000 hommes là, qui se connectent chaque jour sur le site principal de petites annonces, si tous, parce que en contact avec la recherche de personnes d'achat d'actes sexuels, si tous avaient une amende, vous voyez à quel point on pourrait renflouer les caisses de l'État. Donc, quand on nous dit qu'on n'a pas de moyens, c'est mettons les moyens où il faut. Et tant qu'on acceptera cela, tant qu'on correctionnalisera des viols en général, puisque je parle de toutes les violences faites aux femmes et aux enfants, on ne tarira pas la source de cette impunité.
Avant d'écouter le témoignage d'une enfant victime de ce système d'exploitation sexuelle, je voudrais qu'on avance quelques chiffres, si c'est possible. Alors, je me tourne vers Delphine Jarreau, vers vous. J'ai trouvé des chiffres avancés par la députée socialiste Isabelle Santiago, qui parle de 15 000 mineurs victimes de ce système. Hors antenne, vous me disiez 20 000 peut-être, et 40 000 adultes, et vous avez conclu en me disant c'est déjà trop. C'est toujours trop.
C'est toujours trop. Et surtout, après les chiffres, les sources divergent, mais convergent vers 15, 20 000 et 40 000 d'autre part. Il n'y en aurait que 1 000, ce serait la même chose. C'est-à-dire que tant qu'il y a cette, je répète vraiment, tant qu'il y a cette impunité, tant qu'il y a ce rapport entre les femmes et les hommes, tant qu'il y a cette domination, tant qu'on pense qu'un enfant peut être un objet sexuel, qu'une femme peut être un objet sexuel au point d'être achetée comme une marchandise, on marchera sur la tête. Et derrière se déplient toutes les violences. C'est un continuum de violences. Donc, sur les chiffres, parmi les jeunes qu'on accompagne, sur les données 2025, il faut savoir que 60% sont déscolarisés, 90% sous mesure éducative et toutes ont subi des violences. Et notamment un chiffre qui m'effare, 90% ont été témoins de violences intrafamiliales. Donc on voit bien ce continuum des violences. Subir les violences intrafamiliales, c'est ça. Et 90% ont subi des agressions sexuelles et 66% des viols antérieure à la situation de prostitution. D'où les vulnérabilités liées au psychotrauma de toutes ces violences subies qui en font des victimes faciles. Et pourquoi on recrute, les proxénètes recrutent auprès des jeunes de la protection de l'enfance, non pas parce que la protection de l'enfance est un lieu perméable, permissif ou je ne sais quoi, mais parce que les plus vulnérables y sont. C'est juste ce lien de causalité. Et d'ailleurs, des enfants, des filles sont instrumentalisées par les réseaux pour être elles-mêmes recruteuses.
Oui, alors on va en parler justement à travers cet exemple. C'est un extrait d'un reportage diffusé sur M6 en 2025 et qui fait témoigner Inès, qui a 11 ans. On écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Inès, 16 ans, n'a qu'un souhait en acceptant de se confier, que d'autres jeunes filles ne tombent pas dans le même piège qu'elle. Elle a 11 ans lorsqu'elle est placée dans ce foyer de l'aide sociale à l'enfance de Marseille, victime de violences familiales. Le mot prostitution lui est alors inconnu, mais cela va changer très vite.
2-3 jours après, il y a une grande qui est venue nous voir et qui nous a proposé de se prostituer. Sauf que moi, je connaissais rien de ça, enfin, je connaissais rien au sexe. Et elle nous fait comprendre qu'en mode, si on ne le fait pas, on aura des problèmes.
Quelques jours plus tard, cette jeune fille plus âgée propose alors à Inès de sortir du foyer et l'amène dans un appartement près de la gare Saint-Charles et lui procure de nouveaux vêtements.
Des robes, des jupes, que des trucs courts et tout.
Puis Inès doit ensuite descendre car un homme l'attend dans une voiture.
Je me sentais pas bien parce que je suis jamais montée avec des hommes inconnus ou avec des gens inconnus. Je dis que j'ai 11 ans, qu'on m'a forcé à me prostituer, qu'ils me regardent et ils me disent c'est pas mon problème. C'est avec les gens qui te le font, tu te débrouilles avec eux, moi je suis un client.
Paralysée par la peur, elle n'oppose pas de résistance. Cet engrenage va durer 4 ans, jusqu'à ses 15 ans, avant que la police n'arrête ses proxénètes. Mais le traumatisme est lui toujours présent.
Ça détruit petit à petit. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à me regarder devant le miroir, à me dire que j'ai fait ça.
Pendant ces 4 années, elle a fréquenté 3 autres foyers des Bouches-du-Rhône, avec pour tous une liberté de mouvement déconcertante.
On sortait, on rentrait à l'heure qu'on voulait.
À quelle heure vous rentriez ?
On pouvait sortir à 1h du matin, on rentrait à 7h du matin, 6h du matin.
Dehors, proxénète et clients l'attendent. Une situation qui révolte cet avocat, en charge de plusieurs dizaines de dossiers de prostitution de mineurs.
Les enfants se prostituent parce qu'ils ont été placés. Aucun enfant dont nous avons la défense, aucun enfant ne se prostitue avant.
Les foyers de l'aide à l'enfance sont sous la tutelle des départements qui, pour cet avocat, n'endossent pas leurs responsabilités.
Lorsque l'enfant n'est pas là, au lieu de dire « l'enfant est sous l'emprise d'un réseau de pédophilie qui la prostitue », ils disent systématiquement « l'enfant est en fugue ». Et ça inverse la responsabilité. Celui qui est responsable, c'est cet enfant qui est en fugue, c'est pas eux qui ont échoué dans la protection de l'enfance.
Voilà, témoignage d'Inès, évidemment le nom a été changé, qui a été diffusé sur M6 Info. Sophie, Guillaume, que vous inspire ce témoignage ? Qu'est-ce qui résonne de votre propre expérience dans l'accompagnement des mineurs en situation d'exploitation sexuelle ou en passe de l'être ou en risque de l'être ?
Tout d'abord, ce qui me fait réagir, c'est les mots de l'avocat quand il dit « elle se prostitue ». Non, c'est pas ainsi qu'on peut décliner les choses. C'est, elles sont victimes de mafieux, d'un réseau d'emprise. Voilà. Et c'est tout d'abord ainsi qu'il faut regarder les choses. Ensuite, quand la petite dit « on avait toute liberté », on sait bien que ces enfants sont placés parce que d'abord ils ont subi des choses d'une grande violence de toutes parts dans les familles et qu'on ne les enferme pas. Ils sont dans des lieux normaux où effectivement le droit de sortir, etc. est tout à fait possible. Après, je pense que ce qu'il faut mesurer, c'est comment les proxénètes s'organisent pour installer cette emprise et pour faire miroiter à ces jeunes qui sont en désarroi, qui sont en détresse, qui sont parfois très abandonnés et très rejetés par leur famille, un paradis très artificiel et hautement délétère, mais qu'elles n'ont pas la capacité à cet âge-là et si jeune de pouvoir déceler et de pouvoir imaginer. Donc en fait, il y a aussi ce côté-là. Je pense que avant de désigner un seul coupable, effectivement, comme le disait Madame Jarreau, c'est une responsabilité qui est complètement systémique. Et il y a un système là d'organisation du proxénétisme qui est gravissime et que j'observe moi tous les jours. C'est des gamines qui recherchent de l'affection, qui sont en carence d'estime d'elles et qui effectivement sont des victimes toutes trouvées pour que des... Alors il y a plusieurs formes dans ce proxénétisme. Ça peut être le réseau qui va proposer de l'argent. Maintenant, il s'appelle les jardiniers, hein, et les jeunes, elles valent tant de roses. Donc c'est des codes comme ça pour vraiment glamouriser et faire un déni total sur ce que revêt cette criminalité. Et donc, voilà, les jeunes peuvent aussi avoir des relations très amoureuses au départ avec un gars qui est très sympa. Et c'est arrivé à une des jeunes que l'on a accompagnée, qui va très insidieusement faire un travail de sape sur le lieu d'accueil qui est en train d'essayer d'aider cette jeune, la couper de tous ces lieux et ces liens qui peuvent l'aider, parce qu'il n'y a plus de famille aussi sur laquelle elle peut compter. Et petit à petit, refermer les taux. La jeune, du coup, sera plus prise en charge parce qu'elle y est quasiment plus sur son lieu. Et c'est comme ça que les choses, elles, se passent aussi. Donc, ouvert, fermé, c'est pas ça la question. C'est comment on utilise les très, très, très grandes fragilités de ces jeunes. Et comme l'a dit la collègue tout à l'heure, les jeunes qui ont été victimes de plusieurs situations de violence, et notamment des violences sexuelles, ont quasiment tous, toutes et toutes, des symptômes de psychotrauma, c'est-à-dire la dissociation, le fait de ne plus rien ressentir, de pouvoir plus du tout estimer et évaluer les dangers. Le curseur, il est complètement Voilà, il est complètement dysfonctionnant sur les situations dans lesquelles elles peuvent être mises en danger. Donc, c'est des proies, mais éminemment faciles, dont on se sert. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans ce système.
Et ce qui est aussi tout à fait intéressant et effrayant en même temps dans le témoignage d'Inès, c'est qu'on voit qu'elle est d'abord victime d'un recrutement par des adolescentes mineures, elles-mêmes victimes de psychotrauma.
Il faut savoir que très souvent, les jeunes filles qui sont déjà recrutées et qui n'en peuvent plus ou qui sont dans une situation d'horreur par rapport à toutes les passes qu'on leur impose et toutes les violences qu'elles subissent, sachant que la passe pour nous est déjà une violence puisqu'on considère que c'est un viol, ces jeunes, au bout d'un moment, peuvent avoir des demandes de pouvoir partir. Et là, les taux se referment un peu plus et le proxénète va lui dire « écoute, si tu veux faire moins de passes, tu ramènes des copines ». Et c'est comme ça qu'elles deviennent elles-mêmes proxénètes. Et malheureusement, parce que ça, c'est des choses qu'on observe dans les missions mineures, malheureusement, ces jeunes sont parfois attrapés plus facilement comme proxénètes et jugés assez rapidement. Parce qu'au fond, c'est pas des gamines qui vont savoir se dissimuler comme le font les proxénètes ou ceux qui sont un peu à la tête des réseaux.
Alors, on entend dans le témoignage l'avocat regretter que lorsqu'une jeune fille disparaît, alors ça peut être quand même aussi un jeune garçon, parce que vous avez dit, Delphine Gérard, hein, que c'était majoritairement des filles et que tout ça était très genré, mais il faut quand même rappeler qu'il y a également des garçons victimes de ce système d'exploitation. Lorsqu'ils disparaissent, souvent, on leur impute la responsabilité de cette disparition. On parle de fugue. Ça renvoie à quoi ? À un déficit de formation des accompagnants dans les foyers ? Qu'est-ce qui pourrait intervenir pour remédier, si c'est le cas, à ce déficit de formation pour identifier finalement ce dont ces jeunes filles sont victimes ?
Je ne dirais pas que c'est tout le temps ainsi, mais c'est quand même très fréquent, effectivement, une difficulté pour les lieux d'accueil de conscientiser le danger de ces fugues. Donc, c'est un travail de tout le temps et à refaire et à recommencer sur garder le lien avec elles, essayer de demander à ce qu'elles puissent donner des nouvelles. Garder le lien, ça veut dire aussi s'adapter au réseau que les jeunes utilisent. Donc, nous, on a un compte professionnel sur Snap qui permet de garder contact avec les jeunes. Même si elles n'ont plus de téléphone, elles peuvent se connecter quand même. Oui, c'est vraiment important de prendre du temps au retour, de savoir de leur poser des questions, qu'est-ce qui t'est arrivé, est-ce que tu as besoin de quelque chose, et de pas être dans des reproches, parce que finalement la fugue, elle est souvent perçue comme il a pas respecté les règles, il a pas respecté le cadre, et non comme peut-être qu'on l'a un peu obligé, et peut-être qu'il y a le réseau derrière qui menace déjà, et il faut savoir que la majorité des jeunes qui sont dans ces réseaux ont des addictions, qui sont déjà parfois préexistantes et qui sont bien renforcées par les réseaux, de manière à ce que la dette de drogue, d'alcool, etc., que les proxénètes savent bien créer, les oblige à y retourner. Et donc la fugue peut être aussi, je suis obligée d'y retourner parce que de toute façon, il y a trop de craintes et trop de menaces.
Delphine Jarreau, vous vouliez compléter la réponse à ma question en parlant bien dans le micro, Delphine.
La notion de fugue... Je pense qu'il faudrait
bien dans le micro.
On requalifie les fugues en disparition inquiétante. Fugue, c'est comme si les jeunes en étaient les auteurs libres. En l'espèce, il s'agit de disparition inquiétante. Et je crois qu'il faut vraiment, comme le dit ma collègue, réinterroger ce qui s'est passé, l'objet du départ, ce qui s'est passé pendant cette absence, en tout cas de la protection du lieu qui la protégeait. Et cette requalification permet de revoir peut-être les choses. Ensuite, les victimes auteurs, c'est assez dramatique. C'est comme pour la traite des êtres humains en général. Je pense notamment aux jeunes ou des affaires comme le Trocadéro, où on a vu que des gamins de moins de 15 ans exploités via la traite des êtres humains, mendicités à commettre des vols surtout, étaient en fait victimes de traite. Et non poursuivables pour les délits qu'ils avaient commis, mais victimes. Et là, en l'espèce, l'Amicale du Nid plaide pour que ces victimes auteurs, dans certaines limites évidemment, hein, mais soient considérées d'abord comme des victimes et instrumentalisées par le système prostitutionnel pour être des recruteuses. Et c'est vrai qu'elles savent beaucoup moins se protéger que les réseaux qui sont beaucoup mieux organisés, même s'il s'agit de réseaux de proximité, hein, qu'on a relativement beaucoup plus pour les mineurs que pour les adultes. Et cette question doit vraiment attirer toute l'attention et toujours travailler sur cette question de la prévention. Puisque les modalités de recrutement, elles sont assez basiques, j'ai envie de dire. Le fameux lover boy, celui qui vous fait la cour et puis qui petit à petit resserre l'étau. Le plan sous via les copines. Ça, on l'a vu. Et puis, via les réseaux sociaux et des rencontres, un acte sexuel dit consenti qui peut être filmé et surtout diffusé, menace de diffusion, et des viols, violés, filmés, et avec menace de diffusion. Donc, on voit bien que le schéma de recrutement est de plus en plus en format court, et raccourci, violent. Et donc des étaux qui se referment sur ces jeunes, très jeunes, à la maturité bien insuffisante pour mesurer toutes les violences déjà qu'elles ont subies et celles qu'elles peuvent encore subir.
Merci Delphine Jarreau, merci à vous également Sophie Guillaume d'être venue ce matin au micro d'Aligre FM pour parler de l'Amicale du Nid et de ses actions nombreuses pour lutter contre le système d'exploitation sexuelle, en particulier pour cette émission système d'exploitation qui concerne des mineurs. L'émission arrive à son terme. Merci à Anatole Pain et assisté d'Enrico Mastrogiovanni qui était aujourd'hui à la technique et sans qui rien ne serait possible. Cette émission sera bientôt podcastable sur le site d'Aligre FM. Restez à l'écoute de nos programmes pour cette semaine consacrée à la vie associative dans toute sa vitalité mais aussi dans ses difficultés. La suite c'est tout à l'heure à partir de 17h sur Aligre FM 93.1. À bientôt sur l'antenne d'Aligre.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.